Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'attente maintenant, nous voyons bien que la Pentecôte va arriver et les textes qui sont choisis sont exactement ceux des apôtres qui vivent leur dernier moment sur terre avec le Seigneur, non pas vraiment qu'ils le vivent puisqu'il est apparu régulièrement et qu'il leur a donné des consignes. Il leur promet un défenseur et il leur promet de rester avec eux. Voyons ce que ça veut dire, nous qui nous aussi attendons, le Seigneur est parti physiquement de ce monde et nous attendons ce défenseur sans cesse qui nous fait vivre. C'est pourquoi d'ailleurs il faut le prier à partir de jeudi, jeudi de l'Ascension, eh bien il faut prier l'Esprit-Saint avec ardeur durant les 9 jours qui vont s'écouler pour que vous arriviez à la Pentecôte après cette neuvaine, plein de ce désir de recevoir l'Esprit une fois de plus qui nous anime. Alors la neuvaine commence le jeudi, c'est pas magique, hein, il faut prier l'Esprit-Saint, trouver une prière à l'Esprit-Saint, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est le grand inconnu, l'Esprit-Saint, et regardez dans vos missels, regardez sur internet, regardez dans vos livres de prière, et priez l'Esprit-Saint, priez une prière qui existe, priez de tout cœur, mais priez le Saint-Esprit. Le Seigneur fait 2 promesses à ses apôtres avant de partir, et ce sont des promesses d'action. Car la réalité se trouve dans l'action. Il nous faut aimer Dieu et garder ses commandements, et il nous faut demeurer en lui pour qu'il demeure en nous. Ce sont mes 2 points. D'abord, aimer Dieu et garder ses commandements. Alors aimer Dieu, c'est pas si facile, parce que, bon, je ne dis pas que c'est facile d'aimer les autres, hein, on a toujours de grandes aspirations pour aimer tout le monde, normalement, à commencer par ceux qui nous sont proches, un époux, une épouse, des enfants, des parents, des cousins, des proches, voilà, c'est comme ça, des paroissiens, des frères, c'est comme ça que ça marche. C'est pas si facile, mais au moins, il y a une petite réalité qui s'impose à nous. Aimer Dieu n'est pas facile, nous entrons dans une relation avec Dieu déjà par des dons qu'il nous fait. C'est la foi, l'espérance et la charité. Pour aimer vraiment Dieu et garder ses commandements, il nous faut entrer dans cette relation par les dons des vertus théologales. La foi qui est un engagement. Si le Seigneur se retire, s'il va partir physiquement, les apôtres n'ont pas eu besoin de la foi, il fallait qu'ils croient en la divinité du Christ, mais ils avaient foi que le Seigneur était avec eux, que Jésus était là, qu'il faisait des miracles, ils n'avaient pas besoin d'avoir la foi, ils l'ont vu. La foi, c'est de tenir pour vrai ce qu'on n'a pas encore vérifié soi-même, c'est donc de s'engager, c'est de risquer. Il n'y a rien dans ce monde qui vaille vraiment que ce qui vaille d'être risqué. Car la vie est un risque terrible, l'amour est un risque incroyable, c'est les seules choses qui valent vraiment. Alors il nous faut aussi, dans notre relation avec Dieu, nous engager et risquer notre vie, risquer d'être avec lui. La foi, l'espérance, qui nous fait désirer Dieu. Alors pour espérer, évidemment, il faut espérer les choses du ciel. Parce que si vous avez l'espérance qu'à midi, vous mangerez quelque chose d'à peu près correct, ce qui n'est pas un péché, hein, c'est très bien, j'aime beaucoup manger, c'est pas le problème. Mais enfin, si c'est ça notre espérance, c'est très limité. C'est pas l'Esprit-Saint qui va nous animer, c'est notre ventre. Alors, Saint Grégoire le dit, l'Esprit-Saint enflamme ceux qui désirent les choses spirituelles. Il nous faut donc désirer l'Esprit qui anime tout. Enfin, la charité, la plus grande certainement, la dernière, mais celle comme un sommet des vertus théologales, la charité qui nous fait connaître Dieu immédiatement, dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire, il y a toujours un moyen pour connaître Dieu, mais la charité c'est Dieu en lui-même. Là, il n'y a plus de moyen. C'est déjà Dieu lui-même, par la charité que vous faites, vous connaissez, c'est-à-dire vous prenez en vous l'existence même de Dieu qui est charité. Voilà les moyens que nous avons pour aimer Dieu. Et donc, garder ses commandements, ces commandements, quels sont-ils? Ce sont des mandements, ce sont des demandes. Dieu nous demande quoi? Ben, il nous demande d'aller vers lui. C'est ça le commandement. Il y a des commandements intérieurs et des commandements pour l'extérieur. Le commandement intérieur, c'est d'abord de n'avoir pas peur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le commandement qui revient le plus souvent dans la Bible. Plus de 365 fois dans la Bible se trouve le commandement « N'ayez pas peur ». Alors je vous le redis, aujourd'hui encore, puisqu'il n'y en a plus de 365 dans la Bible, il y en a un pour tous les jours. Aujourd'hui, dimanche, sixième dimanche de Pâques, en pleine pandémie, en pleine épidémie, n'ayez pas peur. Le Seigneur est notre salut. Les chrétiens ne peuvent pas avoir peur. Les chrétiens sont raisonnables. Ils agissent raisonnablement, ils ne sont pas... Ils sont rationnels, ils savent ce qu'il faut faire pour être prudents, mais ils n'ont pas peur, car nous avons les promesses de la vie éternelle. Les autres commandements, je ne pourrais pas tous les faire, mais ça c'est un commandement intérieur, n'ayez pas peur. Et puis il y a les commandements pour l'extérieur, c'est-à-dire notre comportement. Hein, car la morale, puisque c'est son nom, c'est les commandements qui nous sont donnés pour agir dans le monde, hein. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu n'enviras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, enfin bref, tous les commandements, vous les connaissez. Ces demandes, c'est la foi en action. Il n'y a pas de morale sans foi. C'est-à-dire, on se comporte en fonction de ce qu'on croit. Hein ? Si je crois que la vie ne vaut rien, eh bien, je peux tuer tout le monde parce que j'agis, ma morale est conforme à ce que je crois. Si je crois que la vie est précieuse, mais je vais agir pour protéger la vie. Si je crois que la vie va s'exaucer dans la vie éternelle, eh bien, je vais amener les gens à Dieu. Voilà. Ma morale reflète, c'est ma foi en action, tout simplement. Ces commandements sont faits pour que nous vivions, que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Les règles que Dieu nous donne... Les règles morales que Dieu nous donne, dans sa loi divine, dans sa loi naturelle, dans les lois humaines qui sont bonnes, conformes à la loi éternelle, eh bien, elles sont faites pour nous donner la vie. Quand c'est marqué « ne pas se pencher danger », c'est une règle, c'est pour que l'on ne tombe pas. Quand c'est marqué « poison, ne pas boire », c'est une règle qui nous est donnée pour que nous ne mourions pas. Eh bien, les commandements que nous donne le Seigneur sont des règles qui nous sont données pour que nous vivions, que nous ne mourions pas, que nous ne n'allions pas vers notre perte, mais vers notre salut. Voilà à quoi servent toutes les règles que la morale nous donne, de la Bible jusqu'à sa mise en forme par l'Église. C'est pour que nous allions jusqu'à la source de la vie. La morale n'est pas un empêchement à vivre, c'est une indication pour vivre. Comme vous suivez avec fidélité votre TomTom ou votre GPS qui vous commande de tourner à droite, à gauche, etc. parce que vous lui faites confiance pour vous amener à bon port, là où vous lui avez demandé d'aller, eh bien nous faisons confiance au bon Dieu, qui me pardonne pour cette comparaison, cette analogie un peu vulgaire, mais c'est une pratique de tous les jours. Eh bien moi aussi je fais confiance au Seigneur qui me donne les règles nécessaires pour arriver à bon port, c'est-à-dire le ciel. Voilà comment nous pouvons aimer Dieu et garder ses commandements. Aimer en vérité, c'est aimer en action, c'est aimer dans la réalité de notre vie, sinon ce n'est pas de l'amour. Aimer en disant « oui, oh, je t'aime bien, oui, mais je t'aime bien, mais je ne viendrai pas te visiter, je t'aime bien, mais je ne t'aiderai pas, je t'aime bien, mais je ne t'écouterai pas, je t'aime bien, mais je ne prendrai pas de soin de toi. » Bon, eh ben, tu m'aimes pas. Si vous aimez le Seigneur, vous garderez ses commandements, c'est d'une évidence claire, évidemment. Voilà cette première action que le Seigneur nous propose, l'aimer et garder ses commandements. La seconde, un peu plus difficile, semble-t-il, a priori, demeurer en lui pour qu'il demeure en nous. Le Christ est formel, il est audacieux, c'est incroyable. Relisez ce texte de Saint Jean qui est d'une audace folle. Si vous demeurez en moi, que vous gardez mon commandement, moi je demeure en vous. Et si je demeure en vous, le Père demeurera en vous, il vous aimera, il vous enverra l'Esprit Saint. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on dit. Nous sommes en Dieu. Alors, il nous faut demeurer avec le Christ, demeurer en lui. Le Christ s'est donné à nous, s'est donné à connaître, il est l'icône véritable, c'est-à-dire la véritable image de Dieu, Dieu lui-même, sans distance, partageant la substance divine, il est vrai Dieu et vrai homme. Alors il nous faut le suivre dans son humanité et sa divinité, puisqu'il est venu pour ça, il est venu pour qu'on le connaisse. Vous savez, c'est ce que les chrétiens ont de plus extraordinaire, et d'ailleurs de différent de toutes les religions du monde. Dans tous les temps et tous les lieux, on a toujours cru en Dieu. Presque. part du XVIe siècle jusqu'à maintenant en Europe, bon, c'est une parenthèse que l'athéisme qui va finir, parce que c'est complètement irrationnel. Et donc, enfin, relisez la théologie, faites de la métaphysique. L'incroyance n'est pas rationnelle. Ce sera un autre sermon. Alors, il nous faut donc croire en Dieu qui s'est donné à connaître par l'image même de Dieu, le Christ. Alors, c'est pourquoi nous lisons sans cesse l'Évangile. Parce que son exemple nous est donné. Alors, admentem conditorem nostrum, hein, dans l'esprit de notre maître, de celui qui nous guide. Nous refaisons, nous voulons connaître ses paroles, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et nous mettre dans ses pas. Nous voulons être comme le Christ. Le Christ lui-même. Eh oui, s'il demeure en moi, si le Christ demeure en moi, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Ben, je suis un autre Christ. J'ai lu il y a quelque temps une étude qui s'interrogeait pour le prêtre. Est-ce que le prêtre est vraiment un autre Christ, le Christ lui-même? Faut être prudent, parce que je connais plein de prêtres qui font des choses mauvaises, moi aussi d'ailleurs. Alors peut-être que c'est pas vrai. Alors je vous invite à n'être pas des théologiens de pousse-mégo, hein, de gagne-petit, de petite quête. Vous êtes vraiment les membres du corps du Christ. Vous êtes d'autres Christ, vous êtes le Christ lui-même. Ah, le prêtre aussi. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes parfaitement, hein. Ça, je le sais bien. Moi aussi, je fais mon examen de conscience. Hein. Donc, mais nous sommes, hein, membres du corps du Christ jusqu'à intégrer le Christ lui-même qui est l'Église. Il nous faut le suivre dans son humanité et le suivre dans sa divinité. C'est évident que c'est dans les sacrements que nous le recevons parfaitement, que nous le recevons d'une manière supérieure, même s'il se donne à nous par de multiples grâces dans toute notre vie. C'est dans les sacrements, c'est dans la communion sacramentelle que le Christ se rend présent lui-même avec sa divinité, sa corporéité, son humanité, toute son âme, sa divinité, tout est là. Voilà comment le Seigneur demeure en nous. Sa promesse n'est pas vaine, il a trouvé le moyen, par la célébration de la Pâque, de rendre présent sa croix éternellement. Voilà comment il demeure en nous, vraiment, et comment donc nous pouvons demeurer en lui, car il est infini et je suis tout petit. À chaque fois que je communie, c'est en lui que j'entre, plus qu'il n'entre en moi, même si c'est ce que je vois. Je comprends, mes bien chers frères, que vous soyez bouleversés, peinés, déchirés de ne pouvoir venir communier. Alors je vous le dis, allez communier, parce que c'est pas interdit. Il est prudent de ne pas célébrer des messes avec du monde, alors c'est ce que nous faisons, mais les églises restent ouvertes, et les prêtres sont là pour vous donner la communion. On peut communier en dehors de la messe. Il y a un rituel pour ça. Les prêtres n'ont pas dû l'oublier. J'espère. Et ils sont toujours disponibles. Il faut leur téléphoner, il faut aller les chercher, il faut les supplier s'il faut. Mais ils sont là pour vous donner les sacrements. Alors, venez communier. En attendant de pouvoir complètement recevoir le Christ dans la messe à laquelle vous assisterez. Voilà comment nous demeurons dans le Christ, et la promesse extraordinaire, presque indicible, c'est que Dieu lui-même, le Père et l'Esprit Saint vont demeurer en nous. Oui, nous sommes les fils de Dieu. Notre filiation divine vient de ce que le Père est en moi. Le nom que nous portons signifie qu'il y a quelque chose en moi de mon Père et de ma Mère. Il y a quelque chose en moi de l'origine. Eh bien, nous portons tous le nom de chrétiens, parce que si nous sommes frères du Christ, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous devrions le méditer. Saint Jean de la Croix disait que méditer les deux premiers mots du Notre Père suffisent à toute une vie. Notre Père. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Pas le Père de Jésus, pas le Père, notre Père. Voilà que nous sommes établis dans la filiation divine, vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Ce n'est pas un symbole, une métonymie, une analogie ou je ne sais quoi. C'est une réalité. Dieu vit en vous. Alors soyez fiers, redressez la tête, car il approche le jour du salut, où il va se manifester, c'est la promesse du Christ dans saint Jean, l'Esprit Saint qui nous anime, nous donne de vivre en lui, cet Esprit Saint qui est consolateur, ce paraclet qui est notre défenseur, comme on le voit bien dans les Actes des Apôtres. Il a inspiré l'Église à ses débuts, jusqu'à sa fin il l'inspirera. C'est la présence spirituelle du Christ parmi nous, c'est son Esprit qui vit en nous, c'est ce qui l'unit profondément au Père qui nous unit à lui, cet Esprit Saint que nous devons désirer pour être vraiment les fils de notre Père. Tout à l'heure, dans un instant, vous ne pourrez pas communier matériellement, et c'est une grande peine, mais vous communierez spirituellement. N'oubliez pas, durant tous ces temps de pénitence où vous ne pouvez vous approcher de la Sainte Table, que toute communion est spirituelle. C'est dans l'Esprit du Christ. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas communier matérialitaire, c'est l'inverse. Quand on aime vraiment, on aime jusque dans la chair. Quand on aime parfaitement, on aime réellement. Voilà ce que nous désirons, mais n'oublions pas que c'est d'abord dans l'Esprit de Dieu que nous communions à lui. Désirons cette venue maintenant pour refaire en moi, sans cesse, malgré ma petitesse et mon péché, l'image de Dieu qu'il y a déposé, la créature parfaite que Dieu a voulue. Nous avons Marie pour nous y mener. Dans la Vierge, nous connaissons le chemin. Si vous voulez vraiment vous unir à l'humanité du Christ, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que de s'unir à sa très sainte mère, qui fut celle qui lui suit, qui y a été intimement unie. Ainsi soit-il.